chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Comment réussir un champ semencier, un champ de semences? Nous savons que les semences, une semence, c'est l'élément le plus important dans l'agriculture. Sans une bonne semence, les paysans ne pourront pas obtenir de bonnes récoltes. Aucun engrais, pesticide ou équipement ne pourra améliorer les rendements si la semence n'est pas de bonne qualité. Alors, il est possible de faire un champ semencier. Voilà, et on en parle aujourd'hui avec notre invité qui va nous dire comment le faire. Ça existe. Exige certainement beaucoup de rigueur et une certaine technicité. Alors, ingénieur Daniel Diboué, encore une fois, bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes également chercheur à l'INERA.
Bien sûr.
Ouais, INERA, c'est l'Institut...
National pour l'étude de la recherche agronomique.
Pour la recherche agronomique. Alors, qu'est-ce qu'on on entend d'abord? C'est quoi un champ semencier? Pouvez-vous définir un champ semencier?
Oui, en fait, un champ semencier, c'est un champ qui a... comme objectif la production de la semence. Et la semence, comme vous venez de le dire, c'est l'intrant agricole le plus honoré et ce qui est même à la base de l'agriculture. Et sans semence, on ne peut pas parler aussi de la production agricole.
De la production. Okay.
OK. Donc, c'est là où on produit, en fait, la semence. Et quand on parle de la semence, il faut que cette graine-là ait la vie. C'est parmi les caractéristiques importantes de la semence, c'est que ça doit posséder la vie pour que ça puisse se reproduire.
Voilà, mais à l'époque, je ne sais pas si la technique est appliquée jusqu'aujourd'hui, les paysans avaient l'habitude d'aller prendre peut-être les grains de certaines plantes et les garder comme semences pour la prochaine activité, la prochaine, comment vous appelez ça, semis, si on peut le dire, les semis de la fois prochaine.
Oui, en fait, c'est ce qui continue à être réalisé aujourd'hui et c'est pourquoi les rendements ne sont pas aussi élevés parce que ces grains prélevés...
Et ils les gardent où? Dans les germoirs, c'est ça?
Non, ils les gardent dans les greniers.
Les greniers, ça s'appelle greniers.
C'est là où ils gardent leurs semences. En fait, ils ont une certaine pratique qui n'est pas tout à fait mauvaise, mais qu'il faut améliorer pour avoir des rendements élevés ou une bonne productivité.
Voilà. Les champs semenciers, donc, ça permet de produire
La semence.
La semence.
Et ce que nous disons, comme nous disons que la semence, c'est tout ce qui peut germer, ce qui a la vie à l'intérieur et qui répond à un certain nombre de critères, notamment la pureté de la variété, l'exemple de maladies.
Mais on dit souvent que les semences sont produites dans les laboratoires de l'INERA.
Ce n'est pas dans les laboratoires. En fait, dans les laboratoires, parfois, on peut faire des combinaisons, on peut faire des sélections, on combine telle variété avec telle autre variété, mais c'est dans les champs semenciers aussi que l'INERA produit ces semences. Mais ces semences sont dites, on commence par les semences de souche. Après la semence de souche, il y a la semence de pré-base. Après la semence de pré-base, il y a maintenant la semence de base qui est maintenant livrée aux agrimultiplicateurs pour produire la semence R1, R2 et puis la semence commerciale.
Alors, vous avez parlé des agrimultiplicateurs. Qui sont ces personnes-là?
Les agrimultiplicateurs, ce sont des personnes ou des associations ou des groupements de personnes qui ont comme activité principale la production de la semence, comme j'ai dit là, la semence R1. Ils reçoivent de l'INERA la semence de base et ils mettent cette semence de base dans les conditions requises pour que le rendement et la productivité, la qualité même de cette semence répondent aux normes de ce qu'on peut appeler semence.
Voilà, donc le processus, c'est qu'ils reçoivent la semence de base provenant de l'INERA.
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils font de ça?
Ils vont mettre, en fait, pour produire la semence, il faut observer un certain nombre de facteurs. Mmh. Le premier facteur, c'est d'abord le choix du terrain. Il y a plusieurs spéculations et chaque spéculation a ses exigences. Par exemple, quand vous avez une légumineuse, elle n'a pas les mêmes exigences comme les céréales. Donc, les haricots ou les riz ou les maïs, on ne peut pas les mettre dans les mêmes conditions. Donc, il faut d'abord opérer le choix du terrain en fonction de la spéculation que vous allez réaliser.
Prenons par exemple, si c'est le cas des semences de maïs.
Le semence de maïs.
Oui. Comment préparer le terrain?
Oui, la préparation du terrain, c'est-à-dire il faut d'abord les défrichements. Et après le défrichement, il y a les labours. Après le labour, il y a le herçage. Après le herçage, il y a maintenant le piquetage des lignes parce qu'on doit observer les lignes pour avoir une densité optimale. Mais ce qu'on observe souvent chez les paysans, c'est qu'ils sèment en désordre, en vrac. Et c'est comme ça que souvent chez eux, la densité est faible à l'intérieur des surfaces. Donc, ce qui fait que les rendements aussi soient faibles.
Le terrain doit être bien préparé, bien aligné.
Oui, c'est-à-dire que le semis en ligne permet de contrôler d'abord la densité et ça permet aussi de bien exécuter les autres travaux de suite comme le sarclage, les contrôles, les épurations et même le traitement s'il y a des cas d'attaque. À ce moment-là, le contrôle est assez facilité quand le semis est fait en ligne.
Bien, donc la première étape, c'est la préparation.
La préparation du terrain. Après la préparation du terrain, il y a, comme j'ai dit, les labours. Tout ça, ça fait partie de la préparation du terrain. Et puis, il y a les semis. Après les semis, il y a une suite de travaux qui se succèdent.
Par exemple, ils vont semer combien de grains de maïs par trou, par exemple. Ils vont faire des trous ou bien la semence sera jetée comme
oui,
ça.
Oui, c'est ça que je dis qu'on fait les semis en ligne dans les trous que nous appelons poquets.
Poquets.
Et pour le maïs, on sème 2 graines par poquet. Alors, il se peut que vous voyez quand on sème, c'est même avec les machines ou à la main, il se peut que au lieu de 2 graines, c'est 3 graines qui tombent. Ou 4, à ce moment-là, on doit faire le démarrage pour laisser au moins 2 plants par poquet. Et si, après une semaine ou 10 jours, il n'y a pas levé, il faut faire le regrainissage de vide, c'est-à-dire là où ça n'a pas semé, ça n'a pas germé, il faut semer encore à cet endroit-là pour garder la densité. Et après le démarrage et le regrainissage de vide, il faut faire les entretiens, les sarclages, il faut faire les rondes phytosanitaires pour protéger la culture contre les attaques et aussi faire les épurations. Les épurations sont une étape très importante pour la production de la semence qui a comme objectif éliminer tout ce qui est source de pollution dans la parcelle semencière. Et les sources de pollution peuvent être d'autres variétés qui ne sont pas de la même, qui sont de la même espèce, mais qui n'est pas la variété que vous avez semée. Ça peut autre espèce.
Comment ça se retrouve là? D'autres variétés peuvent se retrouver là?
Oui, c'est-à-dire que parfois, dans les lots de la semence, il peut y avoir d'autres semences qui ne sont pas d'autres variétés.
D'autres variétés qui se sont mêlées.
Ou peut-être sur le terrain, il y avait autre chose.
Oui.
Et ça, ces situations-là, il faut les enlever. Nous les appelons de plants hors type. Il faut les enlever du champ semencier. Et aussi, il faut faire le compte, voir ce qui est attaqué par les maladies, parce que la semence doit être indemne de germes pathogènes et de ravageurs. Donc, on fait tous ces travaux-là, sont nécessaires, mais aussi, d'autres étapes, c'est observer aussi une bonne rotation et semer selon les exigences de la saison. Donc, semer dès que la pluie est de retour pour certaines espèces. Il faut un semis précoce, et notamment les maïs, les riz, la cachide, tandis que pour d'autres espèces, il faut un semis tardif, c'est-à-dire quand la pluie commence à cesser, on tend vers la saison sèche, à ce moment-là, il faut semer. C'est le cas, par exemple, de haricots, c'est le cas, par exemple, de niébé. Donc, toutes ces étapes-là sont nécessaires dans la production de ce que nous appelons la semence.
Allez, et quand on met sous terre ces semences, elles vont finir par germer, par produire du maïs. Alors là, on va parler toujours d'un champ semencier ou bien c'est un champ où on plante et puis on fait la récolte plus tard.
Oui, le champ semencier, c'est comme je vous dis là, il y a toutes ces étapes-là qu'il faut observer. Alors que dans les champs de production.
Oui.
On peut laisser d'autres variétés dedans, on peut laisser d'autres, parce que parfois avec la pratique paysanne, c'est que dans ces mêmes champs, vous allez trouver qu'il y a telle variété qui est là, il y a telle variété, il y a telle espèce, il peut y avoir les riz, il peut y avoir les maniocs, il peut y avoir
l'association,
l'association ou l'assolement. Mmh. Alors que dans les champs semenciers, c'est la culture doit être pure, seulement une seule variété. Et aussi, il faut observer l'isolement, parce qu'il peut y avoir des pollens, d'autres variétés ou d'autres graines qui peuvent venir polliniser votre champ et avoir des plants indésirables. Donc, l'isolement, c'est l'espace qui doit séparer de parcelles semencières ou de variétés ou des espèces.
Voilà comment réussir un champ semencier. Jérémy Do nous appelle des bandes de Nouville. Alphonse Boudril de Harou au Guy Bendelo se trouve à Kikwit dans la province du Monde, dont vous voulez également participer. Composez les 081-890-63-94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment réussir un champ semencier, un champ des semences? Jérémy Do, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody Kachama. Bonjour à l'invité du jour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Jérémy?
Bon, là, vous m'excuserez d'abord parce que je peux m'exprimer même à Lingala parce que ce sujet, c'est un bon sujet et les mamans qui sont les agriculteurs, d'autres mamans sont là pour suivre cette émission. Je peux exprimer même à Lingala pour...
Allez-y, Olobini Nigerie, Olobini.
Bon, na lobi boy, po na biso awa sito na bandu boy, konsta o nga na sala, peut-être beaucoup aux alana ba semence mosusu, peut-être ba train net ya banga inga i bandu na wana. O komo na tango bolongoli yango par exemple na saison de pluie pour garder yango da sokimbu le de tisu bolonya, wana mona ba lo babo ibo bomba ngo malamu parce que ba nyama neti ba fuku wana ba nini soki bake ko tamu na kona bangona ba drain wana tango ko lona ngo lisusu ozomona biloko wana so bi malisusu kitoko te ya mwana na lingi na ibe ske ba fuku wana ba nyama na bazana eloko moko mabeza la nzoto na bango biloko wana ili matiete o deuxième type a question ange eza boy bon eza na ba par exemple na agriculture ya manioc. Omona ba boutir mususu peut-être ba ouezo ou dans la Nigeria, kuna na bamboka na ba ouebo da trade, omona par exemple un mois déjà ici et bouti ba kwanga pe a bien na kati. Mais ce qui est par exemple à na niveau na biso avant auto bien na Congo, soki bolonya yango, ozomona ezo bota te nege bota na bamboka na bango, kuna wana ni na ba invité du jour na biso ko pesa ngao exemple, ani zana différent entre kuna na koto. Voilà ma question na zala ki na ngo. Merci beaucoup.
Merci Jerry. Alphonse, vous êtes à Harou, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour l'invité, bonjour à tous les auditeurs. Je suis à Imbokolo, c'est à 30 km du Sud-Soudan et même 30 km de l'Ouganda, à 81 km de territoire d'Arou.
Alors vous êtes à Imbokolo?
Exactement, au centre de négociation d'Imbokolo.
Ok, quelle est votre question?
Je suis vraiment très intéressé par votre sujet et pour cela j'ai quelques petites questions à vous poser. La première question, c'est quelle différence existe entre les champs semenciers et les champs de production? Ça, c'est la première question. La deuxième question, à part l'agronome, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent aussi préparer les champs semenciers? Troisième question, dans un milieu qui a beaucoup de sable, comment peut-on l'améliorer pour une bonne production de semences? Et la dernière question, je dis, nous constatons que les semences sont gardées dans les sachets noirs, souvent perdre les pouvoirs germinatifs. Je voudrais savoir si c'est dû à quoi. Merci, Jésus.
Merci, Alphonse. Ogui Bendelo de Kikwit, bonjour.
Bonjour, monsieur Zoudi. Je salue aussi notre invité. Je n'oublie pas de saluer mon père, Remède Photo, qui m'écoute en ce moment. Merci de m'avoir accordé la parole, monsieur Zoudi. J'ai bien suivi notre invité lorsqu'il expliquait là. Et maintenant, j'ai voulu lui poser la question par rapport... Il a parlé que la façon dont les autochtones gardent leurs semences, c'est bien, mais il faut une modification. Alors, mon inquiétude était de savoir, avec cette modification-là, comment est-ce que ces autochtones-là, qui n'ont même pas accès à la radio Capi, pourront avoir cette connaissance-là. Et j'ai aussi mon inquiétude par rapport à M. Géry de Banounouvi. Vous voyez que souvent ceux qui cultivent, qui font les champs, n'écoutent pas la langue française, même ceux qui écoutent la radio Capi en ce moment. Il faut que notre invité, après avoir expliqué en français, qu'il puisse aussi expliquer en lingala, kikongo, s'il connaît des langues nationales, pour que ceux qui écoutent puissent avoir de bonnes précisions. Et puis je voulais demander à notre invité, le mélange de deux ou trois semences, par exemple maïs, mié et manioc dans un seul champ, est-ce que cela pourra aboutir à un bon résultat? C'était la mes deux préoccupations, mais c'est aujourd'hui, je vous remercie.
Bien, merci, Ogui. Voilà, M. Daniel Dioué, vous avez suivi les auditeurs qui ont réagi par rapport à ce thème, comment réussir un champ des semences. On me fait signe qu'il y a un autre auditeur qui vient de s'ajouter, il est à Kananga. Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste, bonjour à notre invité, c'est pas tout l'invité de la radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, moi je voudrais tout simplement poser la petite question à notre invité. À quelle période précise faut-il faire les semences afin de trouver un bon rendement? Et la deuxième, les artisans qui font un peu les champs, monsieur Jean, je remarque que sur le même champ, ils trouvent plusieurs semences, entre autres les maïs, les riz, les légumes. Quand même, on a un bon rendement à la fin de la récolte. Je demanderai à notre invité que est-ce que c'est une bonne pratique car le rendement est un peu meilleur? Si oui, comment accélérer? Merci beaucoup, monsieur.
Bien, merci Albert. Commençons par Géry qui dit que certaines semences perdent leur pouvoir germinatif lorsque ils sont en contact, entrent en contact avec des souris ou autres ruminants, des insectes qui passent dessus. Alors il veut savoir comment expliquez-vous cela?
Oui, en fait, nous avons dit que la semence doit garder la vie. Si une graine n'a pas de vie et n'est pas germée, ne peut pas être appelée
les semences. Et par conséquent, si les rongeurs, si les insectes attaquent les semences, ils bouffent le germe qui est à l'intérieur et cela n'est plus propre et ne peut plus être appelé semence. Parce qu'aussi, la semence doit être gardée dans les conditions optimales pour éviter en fait toutes ces attaques qui détériorent la qualité même de la semence et ça ne peut être plus appelé semence parce que ça ne peut plus germer.
Alors au lieu de garder ça à la maison, il faut que ça soit gardé dans un champ sémencier?
Non, c'est-à-dire dans les maisons, il y a de techniques, les mamans, les papas, ils savent comment est-ce qu'ils gardent dans les greniers, parfois dans les bocals, et parfois il faut mettre des insecticides, c'est pourquoi, en fait, ce qu'ils produisent là, c'est parce que ce qu'ils produisent en fait, c'est juste pour garder pendant un temps avant de faire le semis de la saison suivante. Et pendant ce temps-là, on doit protéger la semence contre ces attaques, soit en utilisant les produits naturels. Il y a par exemple ceux qui utilisent les piments, on met un peu de piment à l'intérieur pour éviter que les insectes ne puissent pas bouffer. Il y a aussi ce qu'on appelle le c'était à Pimbo, c'est donc le Sclerophlaise zincai qui exhale un parfum et on peut mettre aussi à l'intérieur de l'eau de semence pour éviter les attaques. Il y a aussi ce que nous préconisons aussi, l'utilisation de l'huile de neem. Et ce sont des plantes qui existent dans tous les milieux, je les ai vues beaucoup à l'Équateur. Et les graines, là, on peut fabriquer l'huile qui protège la semence contre les attaques. Mais il y a aussi les insecticides et les fongicides commerciaux, mais parfois que dans le village, on ne trouve pas. Oui. Et parfois, ça coûte cher ou c'est rare. Mais ces produits existent, en fait, pour protéger la semence contre toutes ces attaques-là.
Géry nous parle des boutures de manioc qui sont importées du Nigeria. Quand ça arrive chez lui, dans son village, ça ne donne pas. Qu'est-ce qui explique cela? Le rendement est faible.
C'est ça ce que nous déplorons. Si les gens peuvent amener des matériaux génétiques d'un pays à l'autre sans passer par le service de l'agriculture, qui connaissent quelles sont les variétés qu'on importe et qui doivent être d'abord acclimatées et expérimentées. Et il y a les conditions climatiques et édaphiques sont différentes et ces conditions peuvent faire que les variétés qui étaient plus propices ou plus productives dans tel milieu ne le soient pas dans un autre milieu. Et aussi la façon dont on a fait les champs, est-ce qu'on a suivi les différentes étapes, cela affecte aussi le rendement. Et nous avons aussi aujourd'hui c'est le problème des changements climatiques qui peuvent faire que avec ce changement qu'il y ait peut-être des maladies ou des insectes,
oui.
Ou peut-être moins de pluie que là où on avait produit cette bouture-là.
Bien, nous avons, avant de poursuivre, on va accueillir Marcel Didier des Kananga. Bonjour Marcel.
Bonjour, c'est monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati et aussi à l'invité vraiment.
Marcel, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai deux petites préoccupations. La première est que je voudrais que notre invité puisse nous expliquer le phénomène qui se fait que ces individus, l'un spécialiste en la matière, l'autre n'est pas spécialiste en la matière, font un champ ensemble. Les non-spécialistes en la matière parviennent à avoir une bonne récolte. Et les champs en matière, et surtout, c'est quel phénomène qui se fait? La deuxième préoccupation est que je demande à notre invité de me répondre à ceci pour dire que pour avoir une bonne récolte, faut-il avoir une bonne terre ou une bonne semence? Je pense que je te remercie pour ça.
Bien, merci Marcel. Pour avoir une bonne récolte, faut-il avoir une bonne terre ou une bonne semence? Qu'est-ce que vous pouvez dire directement?
Les deux. Parce qu'en fait, les études réalisées par la FAO montrent que 40% du rendement dépendent de la qualité de la semence. Mais aussi, si la terre qui va recevoir cette semence n'est pas bonne, n'est pas fertile, on ne peut pas aussi avoir un bon rendement. Donc, les deux jouent. Et non seulement les deux, mais il y a aussi d'autres facteurs climatiques. Il y a la pluie qui doit tomber, il y a la lumière qui doit être là, parce que la plupart de nos plantes que nous cultivons ici sont des plantes qui aiment le soleil. Et tous ces facteurs-là concourent à ce que le rendement soit bien, parce que pour que la photosynthèse s'efface, qu'il y ait production, il faut qu'il y ait les éléments minéraux qui entrent à travers les racines, il faut que le soleil qui est capturé par les stomates dans les feuilles puissent concourir à la réalisation.
Oui, et il nous dit, on est devant deux individus. La première personne est experte dans ce domaine, l'autre n'a pas d'expérience. Et ben voilà, mais celui qui n'est pas la personne qui n'est pas expérimentée dans le domaine a son champ qui produit bien et qui donne une bonne production plus que l'autre. Comment vous expliquez ça?
J'aimerais savoir s'ils ont travaillé sur le même sol, dans les mêmes conditions, et s'ils ont fait tous les mêmes travaux. C'est comme ça qu'on peut faire la comparaison. On peut faire la comparaison s'ils ont travaillé sur des sols différents, pendant des saisons différentes. Là, on ne peut pas comparer. Mais est-il que ce que nous disons, que les paysans ne sont pas des ignorants? Parce que tout ce que nous avons, ce que la science fait, vient parfois de la connaissance empirique. Et qu'on est en train maintenant de chercher à expliquer. Les paysans connaissent, mais parfois ne savent pas expliquer.
Expliquer, oui.
Donc, nous, quand nous partons avec les paysans, nous ne les considérons pas comme des ignorants. Mais on améliore ce qu'ils font.
Bien. Alphonse, vous voudrez connaître la différence entre un champ sémencier et un champ de production?
Oui, un champ sémencier, nous avons dit que c'est l'objectif, c'est la production de la semence et ça doit suivre les normes, comme nous disons. On ne peut pas mélanger, par exemple, des variétés ou des espèces sur le même champ. Et alors que pour la production, on peut mettre plusieurs espèces, plusieurs variétés dans le même champ parce que là, on cherche la production. Alors que le champ sémencier est soumis à des rigueurs, comme vous l'avez dit dans l'introduction de cette émission. Et ces rigueurs font qu'il y ait une différence dans l'objectif, les travaux à exécuter, qu'il faut les faire à temps et au moment opportun, ne pas laisser par exemple les champs être envahis par les mauvaises herbes ou par d'autres espèces qui polluent la variété que nous sommes en train de produire.
Voilà, et il dit, à part l'agronome, est-ce que le paysan aussi peut arriver à développer un champ sémencier?
Bien sûr, pourquoi pas, parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de faire, par exemple, à l'Équateur avec le projet PAXA, tous ceux qui, ce que nous appelons agrimultiplicateurs, ils ne sont pas des agronomes. Il y a parfois des paysans, mais nous exigeons qu'il y ait au moins un technicien qui peut suivre, qui peut comprendre les langages agronomiques, qui peut traduire ça en acte. Donc, les paysans peuvent produire la semence si on les enseigne. Par exemple, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle la semence communautaire. Ce sont les paysans à qui on a enseigné comment produire la semence. Et ça s'est fait et c'est faisable.
C'est faisable. Et il dit, sur un terrain sablonneux, est-ce qu'on peut arriver à avoir un champ, à réussir un champ semencier?
Oui, en fait, sur un terrain sablonneux, il y a la macroporosité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, il y a des degrés de grande dimension et ces sols ne peuvent pas retenir facilement l'eau. Et vous savez que c'est l'eau qui est à la base de la croissance de la plante qui, dans laquelle les éléments minéraux sont véhiculés dans la plante. Alors, puisqu'il n'y a pas assez d'eau, il ne peut pas y avoir un bon rendement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut incorporer à ces sols des matières organiques qui commence à souder les particules, qui améliore les propriétés physiques du sol pour avoir un bon rendement. Mais il y a aussi certaines espèces qui s'adaptent dans les sols sablonnés. Par exemple, le sorgho peut donner un peu dans différents types de sols, alors que d'autres cultures ne peuvent pas supporter ça. Mais il faut améliorer ce terrain-là en y ajoutant des matières organiques.
Bien. Avant de poursuivre, deux autres auditeurs nous appellent. Tony Ulengabo est à Uvira et Océan Bantu à Kananga. Tony, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Tony?
Moi, je voudrais savoir quelles sont les procédures, comment est-ce qu'on peut procéder pour préparer une semence d'ananas. C'est-à-dire, lorsqu'on veut cultiver un champ d'ananas, comment est-ce qu'on peut procéder pour avoir des semences? Étant donné que dans la plaine de la Russie, si chez nous, à Ouvira, peu de personnes s'intéressent à cette et puis ensuite, je veux que l'ingénieur puisse nous dire s'il serait disposé d'échanger avec nous-mêmes hors micro. Dans ce cas, il peut nous communiquer ses contacts.
Merci, Tony. Océan Bantu, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à notre invité. J'ai deux petites ou trois questions que je vais poser.
Oui.
La première question, notre invité a expliqué comment faire pour arriver à une bonne production. La donnée de facteurs, entre autres, aligner cette ligne pour semer. Et puis, en disant cela, il a dit qu'il faut mettre par pied deux graines. Ma question est celle-ci. Quand on met deux graines, par exemple, on voit à la germination, c'est une graine qui sort et l'autre ne sort pas. Et cela se répète peut-être par 10 ou 20 pour que faire? Ressemer, comme cela. Et si peut-être on peut ressemer le cycle de vie, cela ne peut pas amener à des impacts, ne peut pas amener à des conséquences néfastes par rapport à la période de production. Deuxième question. Comment est-ce qu'on peut calculer ou bien quelle distance faudra-t-il mettre entre les bouquets? Entre les bouquets, je ne sais pas si vous me suivez, mais
c'est bien. Oui, oui, on vous écoute, c'est clair.
Troisième question pour terminer. J'ai toujours remarqué, parce que j'ai passé aussi un grand temps dans les milieux de campagne. Pourquoi très souvent les cultures des vallées ne donnent pas une bonne production? Très souvent les cultures des vallées ne donnent pas une bonne production. Je suis expérimenté, moi-même je fais l'expérience. Qu'est-ce que notre invité en tant que faire telle ou dure succès? Merci.
Merci Océan. Rachel, vous êtes à Issiro, bonjour.
Allô, bonjour.
Nous parlons aujourd'hui des champs, des semences. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai une petite question à poser à l'invité.
Oui.
J'ai vu beaucoup de gens, ils ont souvent l'habitude d'utiliser les déchets d'or, les déchets des vaches, pour mettre là où ils ont planté des légumes. Et ces gens-là disent que non, ça a beaucoup de vitamines. Et maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça va avec le champ, donc les déchets là. Qu'est-ce que ça va regarder le champ?
Bien, merci Rachel. Bien, revenons d'abord à Alphonse qui est de Ngbokolo, en Ituri, qui a parlé de... Il dit qu'il y a certaines semences qu'on place dans des sachets noirs et il s'est rendu compte que ces semences-là perdent souvent leur pouvoir germinatif.
Oui, dans ces conditions-là, il y a peut-être l'humidité qui peut faire que ça chauffe, et quand ça chauffe... Et ça perd rapidement de pouvoir germinatif. Donc, ce ne sont pas les bons matériels de conservation de semences. Il n'y a pas d'aération. Parce que nous avons dit que la semence vit.
Oui.
Et dans ces sachets-là...
Il faut une bonne aération.
Une bonne aération. Mmh. Et c'est comme ça que ces sachets-là ne sont pas propices pour la conservation des semences. Il y a des emballages appropriés pour la conservation des semences, sinon ça chauffe et ça perd rapidement le pouvoir germinatif.
Albert dit ceci, à quelle période faire un champ semencier et quels peuvent être les rendements?
Et en fait, un champ semencier se fait, comme nous avons dit, parmi les facteurs, il y a la saison. La saison détermine le moment qu'il faut semer et on doit commencer les travaux bien longtemps avant le retour de pluie. Et c'est comme ça que nous parlons de calendrier agricole ou calendrier culturel agricole quand il s'agit de plusieurs cultures, calendrier culturel pour une seule culture. Donc on doit se référer pour la plupart de nos pratiques ici, il n'y a pas l'irrigation, donc nous dépendons uniquement de la pluie. Alors les retours de pluie constituent des facteurs importants pour faire les champs semenciers.
Bien, alors il y a un autre auditeur, Tony Depuyouvira, qui revient sur la semence d'ananas. Comment arriver à produire un champ de semences d'ananas, par exemple?
Là, ce sont des rejets qu'il faut. Il faut toujours se référer à la recherche qui est habilitée à produire les matériaux génétiques appropriés. Donc, il faut qu'il se renseigne auprès de... Nous avons, par exemple, pour l'INERA, nous avons le programme national Fruits et Bananes, qui est basé à notre centre d'Envoisy. Donc, on peut chercher des matériaux qui s'adaptent aussi, parce qu'il y a différents climats dans notre pays. Là où il est, par rapport à Envoisy, ça peut être différent. Il faut chercher des variétés qui s'adaptent en son milieu.
Voilà, il dit il a aussi besoin de votre numéro. Après l'émission, il dit on peut échanger avec vous. Est-ce que vous voulez lui communiquer votre numéro, si
mon
possible?
Mon numéro, c'est 0-99-99-98-149.
Voilà.
J'ai aussi le numéro Vodacom, c'est 082-36-40-517.
517 Océan, il dit que vous mettez deux graines dans un poquet, comme vous l'avez bien dit, mais il a constaté que généralement, il y a une graine qui ne sort pas. Alors, faut-il semer de nouveau? Est-ce que cela n'aura pas un impact négatif sur la semence?
Oui, j'ai parlé, quand je parlais de la densité, qu'après la levée, qui peut prendre... 3 à 7 jours, il faut faire les réganissages là où ça n'a pas germé ou là où il y a une graine qui a germé. Tout ça, c'est pour garder la densité et ça n'aura pas un impact négatif sur le temps de réganissage et très court. Il ne faut pas attendre après un mois parce qu'à ce moment-là, l'autre plant aura déjà un grand développement et ça va handicaper l'autre. C'est pourquoi, dès que vous voyez que partout ça germe et qu'il y a des endroits où il n'y a pas eu de germination, il faut faire les réganissages de vie, c'est-à-dire ressemer.
Ouais. Alors, il dit quels sont les écartements à observer entre les poquets,
les distances ou même la densité. Je parle d'une façon générale, parce que chaque espèce, chaque variété a ses écartements, a sa densité.
Oui.
Et, par exemple, pour le maïs, nous utilisons souvent 75 cm x 50 ou 80 x 50, c'est-à-dire entre lignes, il y a 80 cm ou 75 cm et dans la ligne il y a 50 cm pour le maïs.
Il a posé une autre question, les cultures, il a constaté que les cultures des vallées ne donnent pas tellement. Vous confirmez cela ou pas?
Non, pas du tout, je ne confirme pas parce que en fait dans les vallées c'est là où il y a l'humidité. Et je vous dis que nous avons beaucoup de variétés du riz de bas-fond qu'il faut mettre dans les vallées, ça produit plus que les variétés de montagne.
Est-ce que les champs semenciers, on peut aussi les...
Bien sûr, parce qu'il y a, des variétés là, des bas-fonds qu'il faut faire. Et aussi, nous, par exemple, à la recherche, nous produisons parfois la semence en contre-saison. En contre-saison, c'est-à-dire pendant la saison sèche, à ce moment-là, nous allons travailler dans la vallée. Donc, je ne confirme pas cela, mais ça dépend des variétés, des pratiques culturelles qui ont été... appliquer.
Et Rachel, on va terminer par Rachel qui nous dit, est-ce que les déchets, on peut aussi utiliser les engrais naturels
c'est très important.
Pour fertiliser les champs semenciers.
J'ai dit qu'à Rachel, que ça c'est très important, les viandes des animaux, c'est très important, ça apporte vraiment la matière organique et ce qu'il faut recommander, nous appelons ça fumier de kraal. Donc vous voyez, par exemple, dans le pâturage, là où les bêtes sont en train d'appéter, si vous mettez la culture là-bas, ça va très très bien donner parce que ce terrain est fertilisé. C'est pourquoi nous disons par exemple aux éleveurs de mettre les bêtes en stabilisation et avec ça, vous pouvez recueillir le fumier des kraals, aller fertiliser les champs, c'est très important. Ça
alors, pour les champs semenciers, comment se fait la récolte?
Oui, la récolte s'est faite à la maturité, pleine maturité.
De maïs, par exemple.
De maïs, quand l'espace est déjà sèche et que ça commence à se courber, à ce moment-là, il faut récolter épi par épi et puis aller faire des espatiers en dehors du champ.
Et on va les garder, on les conserver dans
oui, on va, conditions. Oui, on va égrener, on va sécher. Et on va conditionner. Ça, c'est vraiment beaucoup d'étapes qu'il faut aussi pour le conditionnement et l'emballage.
Et l'emballage. On aura l'occasion d'y revenir prochainement. Daniel Diwemukamba, ingénieur agronome et chercheur à l'INERA. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Daniel, merci.